tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com. Chouette, chouette, indirect.
Le 13-30, un rendez-vous irrégulier, mais toujours à la même heure. En direct sur Radio Grenouille, à 13h30.
88.8 FM. En direct.
La revue Souffle, 1966-1973, espoir de révolution culturelle au Maroc, c'est le sujet du jour. Et avec nous pour en parler dans les studios, Kenza Sefrioui, l'auteur de ce livre, qui est en fait son sujet de thèse, un livre préfacé par Abdelatif Lahabi. Kenza Sefrioui, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Kenza Sefrioui, vous êtes aussi journaliste au Maroc et critique littéraire, et il me semble depuis peu, vous venez de lancer une maison d'édition.
Absolument, toutes lettres qui nous amènent à publier des livres d'enquête et de, d'investigation pour travailler en tant que journaliste sur des formats que la presse actuelle ne nous permet pas de travailler. Et notre premier ouvrage s'appelle « Le métier d'intellectuel, dialogue avec 15 penseurs du Maroc », c'est de Driss Kissé Fadma Eitmous.
C'est un livre qu'on peut trouver à la librairie Transit. Vous êtes ici à Marseille dans le cadre du Temps Fort Maroc organisé par le MUCEM et vous allez donc présenter ce livre, La Revue Souffle, 1966-1973. Alors, sous-titre, c'est Espoir de révolution culturelle au Maroc. C'est une revue qui a existé donc pendant toutes ces années, dans une période bien précise, on va en parler. Et c'est une revue qui a tenté de tenir ensemble l'exercice de la pensée, l'exercice de l'art, de la littérature et l'exercice de la politique. Tenir ensemble tout cela en ayant comme aussi projet, de parachever l'indépendance du Maroc, de décoloniser culturellement le Maroc. En tout cas, telle a été l'aventure de Souffle. Alors, ce que je vous propose, c'est que on commence par écouter un texte d'Abdelatif Lahabi, qui est un des poètes fondateurs de la revue Souffle. Et ce texte est extrait de Mobilisation Tract, paru donc dans cette revue Souffle, je crois que c'est le numéro 14 ou le numéro 13, en tout cas paru en 1969. Il est lu, là, par Hugo Verit, avec accompagné d'une musique de Majid Mekas, qui s'intitule Maraba. J'espère que je prononce bien. On écoute le texte.
Bonne année, camarades. C'est le moment des bilans. On ne demande pas de statistiques. Où en sommes-nous, terre de contraste? La ruée vers le soleil. Cailloux, palmiers, serpents indigènes, jolis coussins, bijoux, burnous, berbères. C'est plus authentique. À répression ouverte. Un bazar de 500 000 km². Fiches anthropométriques, casiers judiciaires, les mercenaires aux quatre coins des rues, nos peuples terrassés par giclées de féodalité, petites exploiteuses, le silence est de rigueur. Voilà, voilà, voilà. On ne mange pas assez, on ne travaille pas, on ne comprend pas, on ne parle pas, on ne baise pas, on ne vit pas. Au secours! Pour qui la première balle? Chut, chut, t'occupe pas. Spectateurs, n'acceptez pas le silence. Chacun s'impose son silence. N'est pas homme celui qui accepte le silence. Cadavre, cadavre d'Éric, minaret de cadavres, candidats au suicide quotidien. Vous vous suicidez chaque jour en acceptant le silence. Vous raidissez, cadavérisez, jaunissez chaque jour en clouant vos glottes et vos poings. Chaque assemblée est une manifestation. Sinon, c'est un cimetière, je vous le dis. L'homme parlera, son règne arrivera.
Kenza Kenza Sefrui, parlez-nous un petit peu du Maroc du début des années 60 pour qu'on comprenne comment aussi cette revue Souffle apparaît dans son projet de révolution culturelle.
Vaste question, c'est une... la première idée qui me traverse la tête, c'est une situation compliquée bien sûr, mais peut-être le dire aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, fait résonner le mot compliqué différemment. Toujours est-il que quand Souffle est lancé en 1966, le Maroc a 10 ans d'indépendance, après 44 ans de protectorat français. Et c'est une situation extrêmement complexe parce que sur le plan de la politique intérieure, c'est la mise en place d'une dictature. C'est-à-dire que c'est la monarchie qui reprend la main sur le jeu politique et qui met en place un système extrêmement autoritaire dans lequel toute velléité de critique est systématiquement réprimée. Donc ce sont les années de la répression systématique des partis de gauche, donc à commencer par l'UNFP, l'Union Nationale des Forces Populaires, dont les cadres sont tous arrêtés, quasiment tous en 1963 et soumis à un procès collectif. En 65, il y a une circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui interdit aux adolescents de plus de 17 ans de passer le bac, alors que c'est un pays où l'école suscite énormément d'espoir d'ascension sociale. Donc ça met dans la rue énormément de lycéens, d'étudiants et évidemment les gens des quartiers populaires pour qui l'école est est quelque chose d'absolument essentiel sont dans la rue et ces manifestations populaires sont très violemment réprimées en mars 1965. Et vous avez également l'état d'exception qui est décrété en juin de la même année. Mehdi Ben Barka, leader de l'UNFP et leader de calibre international, puisqu'il a une dimension, il est impliqué dans toutes les conférences tiers-mondistes, enfin, il a une dimension vraiment à l'échelle internationale très importante, est enlevé en plein Paris et assassiné. La justice n'a toujours pas été faite d'ailleurs sur cette affaire et donc vous voyez dans quelles conditions politiques le Maroc se trouve. Et d'un autre côté, vous avez à l'échelle mondiale des mouvements de libération, c'est-à-dire d'un côté la fin des colonisations, donc les luttes pour obtenir l'indépendance des pays en Afrique ou ailleurs qui sont encore sous domination coloniale. Il y a le conflit israélo-palestinien, il y a le Vietnam qui est en lutte également, et puis il y a toutes ces idées libertaires de mai 68. Donc il y a le ton est à la liberté à une époque où, au Maroc, la liberté est combattue.
Le temps est à la liberté, mais comme vous le précisez, ce 23 mars 1965 se lance aussi un mouvement de ces lycéens. Le temps est aussi à la répression. J'ai trouvé une archive, Problèmes internationaux, une archive de la radio française qui date justement du 26 mars 1965 et qui revient sur cet événement à Casablanca.
Problèmes internationaux. Un magazine de l'actualité radiophonique dirigé par André Blanc.
Le Maroc s'est rappelé dramatiquement à l'attention cette semaine. Les émeutes de Casablanca sont-elles le symptôme d'un mal plus profond ? André Blanc a demandé à Jean Lacouture du journal Le Monde ce qu'il en est.
Dans les incidents très sérieux qui viennent d'avoir lieu à Casablanca, quelque chose surprend tout d'abord, c'est la disproportion entre les effets et les causes. La cause immédiate, ou si l'on veut le prétexte, c'est la décision qui empêcherait les lycéens de plus de 17 ans d'entrer en troisième pour les diriger vers l'enseignement technique. Les conséquences, ce sont des émeutes, des morts, on parle de 7 morts officiellement, des blessés, des incendies et de nombreuses arrestations. On parle d'autre part d'autres incidents à Rabat et à Fès. Jean Lacouture, comment expliquez-vous cette disproportion ?
Écoutez, il me semble que le mécontentement des étudiants, lycéens, jeunes intellectuels marocains à l'égard du pouvoir, qui remonte à longtemps, c'est une vieille grêle entre le palais et les très jeunes gens, soit de l'enseignement secondaire, soit de l'enseignement supérieur. Ce mécontentement a trouvé un terrain propice de développement et même d'explosion à Casablanca. Non que Casablanca soit une ville universitaire, mais c'est une ville où la moindre agitation de rue peut tourner assez vite mal, parce qu'il y règne un climat lourd, un climat social et économique qui est mauvais. Les finances actuelles de l'État marocain sont en très mauvaise posture, la production au Maroc est freinée par le départ qui s'est accéléré depuis quelques mois d'assez nombreux Européens, qui vouent des Marocains au chômage. D'autre part, Casablanca est une ville ceinturée par trois grands bidonvilles, dont l'un, celui de Bensik, a peut-être 80 000 habitants, peut-être même 90 000 actuellement. Tout ça fait un climat dans lequel, si on jette une allumette, on a des chances de provoquer une explosion. C'est ce qui s'est passé après une journée entière de manifestations qui étaient plutôt du type de chahut, mais quand même assez organisées dans la journée de lundi. Mardi, on a vu progressivement les sous-prolétaires, les déshérités, les malheureux sortir des bidonvilles, gagner le centre de la ville, se joindre à des manifestations où les étudiants étaient...
Kenza, c'est vrai, oui. On entend là le commentateur du Monde dire qu'il est étonné par une disproportion entre disons la réforme qui empêche ces jeunes lycéens d'accéder à des études supérieures, et puis la révolte. On voit bien que là, c'est un peu un regard très français, d'une certaine manière, parce que cette disproportion sur le mouvement du 25 mars,
du 23 mars,
elle n'est pas vécue comme une disproportion. C'est-à-dire que c'est effectivement la question de l'accès à la culture, de l'accès à la connaissance, qui est d'un seul coup interdit à tout le monde.
Le mouvement du 23 mars, c'est un peu après, hein. Enfin, c'est au début des années 60, à partir de 1970. Moi, ce qui m'a frappé dans ce document, c'est d'entendre Jean de la Couture dire que c'était une vieille querelle, finalement, entre les étudiants et le pouvoir. Peut-être que c'est moi qui ne connais pas suffisamment l'histoire de cette période, mais effectivement, il y a eu un appel, une espèce d'appel d'oxygène au moment de l'indépendance, une espèce de ruée vers l'école. Souffle a consacré d'ailleurs un dossier spécial à l'enseignement et retrace totalement la chronologie de cette appétence générale pour l'école, avec l'espoir immense que les gens placés dans cette institution comme levier d'ascension sociale. Donc effectivement, moi qui ai travaillé sur Souffle, j'ai tendance à penser que quelque part, c'est la répression de ces manifestations de 65 est plus simple. Je le vois plus comme un point de départ que peut-être, effectivement, Jean Lacouture a certainement raison de dire que c'est un point d'orgue, finalement, d'accumulation de tensions, d'exaspération, de voir que finalement les politiques qui se sont substituées au protectorat ont tout fait pour freiner l'éducation de masse. D'ailleurs, il y a une citation que j'ai en tête dans le dossier consacré à l'enseignement sur Souffle. Il faisait le parallèle avec Cuba, qui disait que un an après la révolution de 59, ou trois ans après, je ne sais plus, c'était officiellement l'année de l'alphabétisation, avec tous les moyens publics mis en œuvre pour éduquer les gens, pour ouvrir des écoles, pour scolariser les enfants de tous les milieux, et surtout des milieux populaires, et que à l'époque, au Maroc, c'était exactement l'inverse, où il y avait des espèces de filtres qui étaient mis pour bloquer l'ascension vers l'école des enfants de milieux populaires.
Alors, 1966, c'est donc le premier numéro de la revue Souffle. Elle est portée par une poignée, disons, d'intellectuels engagés, de poètes, essentiellement, entre autres Abdelatif Lahabi et Mostafa Anissabouri. Quel est le premier projet de cette revue ?
Au départ, ce sont des poètes qui savent qu'ils sont en train de créer quelque chose de tout à fait nouveau, qui entendent bien d'ailleurs se démarquer de toute influence ou filiation, et qui n'arrivent pas à publier ce qu'ils font. Parce que il n'y a pas de véritable maison d'édition à cette époque-là. Je crois que c'est les imprimeurs qui font plus ou moins office d'éditeurs, quelques librairies, pas assez de critiques littéraires. Bon, dans tous les cas, pas de circuit qui permettent de produire et de faire connaître une nouvelle veine. Et puis la presse, les suppléments culturels qui étaient d'ailleurs assez développés à cette époque-là, hein, beaucoup plus développés que ce qu'on trouve aujourd'hui, n'étaient pas forcément sensibles à ces nouvelles recherches, les comprenaient pas, donc les publiaient pas, ou alors quand il y avait des publications, c'était de façon totalement au compte-gouttes, dans des supports. D'ailleurs, l'écrit, il parle de publications dans la revue de l'automobile, donc des choses totalement tout à fait incongrue, ou enfin où on s'attend pas forcément à trouver de la poésie contemporaine. Donc au lieu de pleurer toutes les larmes de leur corps sur l'absence de tribune, ils ont décidé d'en créer une. Et en fait, il se trouve qu'ils n'étaient pas les seuls à se plaindre des circuits existants, mais ils ont rencontré les préoccupations d'artistes d'autres disciplines. Je pense d'abord aux artistes de l'école des Beaux-Arts de Casablanca, qui avait quand même une école, mais qui était quelque part privée de galerie, parce que ces artistes qui avaient une démarche aussi contemporaine, qui faisaient ni de la peinture orientaliste, ni de la peinture autodidacte, tout ce qui s'est appelé ensuite le courant de l'art naïf, étaient très frustrés de ne pas pouvoir exposé vu la sociologie et de la clientèle des galeries existantes. Donc du coup, eux-mêmes éprouvaient le même sentiment d'incompréhension. Les cinéastes, qui s'étaient tous d'ailleurs formés à l'étranger à l'époque, ont été recrutés, ils débutaient au Centre cinématographique marocain, qui d'ailleurs n'épandait pas du ministère de la Culture, mais du ministère de l'Information. On sait très bien qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé, et les gens, pour avoir les infos audiovisuel, aller dans les cinémas. Et donc, ces jeunes cinéastes étaient d'abord recrutés, étaient salariés pour le journal audiovisuel, le journal filmé. Et du coup, ça leur laissait quasiment pas de temps pour produire leurs propres œuvres. Donc, vous voyez, il y avait dans toutes les disciplines des gens qui se plaignaient, des structures, des circuits, et quelque part, l'initiative de Souffle, si elle est partie de poètes, elle a très vite rejoint les préoccupations de ces artistes de différents bords.
Oui, parce qu'il faut rappeler cela, en tout cas, que effectivement, cette revue, elle est pluridisciplinaire, mais que c'est aussi une époque plus largement où les poètes vont au cinéma, dialoguent avec des cinéastes dialoguent avec les arts plastiques dialoguent avec la littérature.
Absolument, il n'y a pas du tout le cloisonnement qu'on peut observer aujourd'hui de discipline à discipline. C'est-à-dire que c'est un groupe de gens qui, pour résumer à grands traits, appartiennent à une classe moyenne qui a pu faire des études et du coup, forcément, ils se connaissent tous, ils se fréquentent tous, ils ont des préoccupations communes et donc, il est normal d'aller assister au vernissage de leur ami artiste, d'aller à l'avant-première de leur ami cinéaste, d'aller à la signature de leur ami poète. C'est un groupe, en fait. Ils ont tous insisté, puisque j'ai fait énormément d'entretiens lors de cette recherche avec les animateurs et les auteurs de cette revue. Tous insistent sur le fait qu'ils fonctionnaient comme une famille, en fait, comme un groupe d'amis très, très proches, très intimes. Et donc, forcément, ils avaient des habitudes de partage, des émotions artistiques, d'appréciation du travail de l'autre et de façon très, très ouverte.
Il y a une volonté dans Souffle aussi, d'une certaine manière, de travailler la question de l'héritage. C'est-à-dire de voir dans la tradition ce qui finalement relève d'un certain conservatisme, d'un empêchement, et ce qui pourrait relever d'une modernité. On sent que c'est quand même, malgré tout, l'objet premier de Souffle, qui est d'essayer de partir à partir de ce passé, de l'histoire du Maroc, de sa culture, de voir ce qui peut projeter le Maroc vers une révolution culturelle.
Absolument, ça c'est vraiment la question complètement centrale de cette revue, parce que d'emblée, son postulat, c'est que on ne sera vraiment indépendant que quand on aura décolonisé la culture. Et décoloniser la culture, c'est quoi ? C'est-à-dire, il y a un constat. Labi a fait un très bel article que je trouve totalement d'actualité encore dans un numéro double consacré aux arts plastiques. Et c'est un article qui s'appelle Le gâchis. Et il fait le constat que le Maroc est politiquement indépendant, mais que on se retrouve face à une masse de documents qui a été produit par la recherche coloniale, c'est-à-dire par des gens qui n'étaient pas forcément des universitaires, mais qui venaient tout simplement au Maroc pour diverses raisons, et qui se sentaient autorisés à écrire sur tous les sujets, de la géographie, l'histoire, les arts plastiques, les arts traditionnels, le costume, la musique, les danses, les... Enfin, donc, que ces chercheurs, ou ces simili-chercheurs, ont produit une masse documentaire absolument considérable. Et Labi a cette une appréciation très nuancée en disant, d'un côté, on a conscience que le Maroc au XXe siècle a considérablement changé. Donc cette masse documentaire a au moins l'intérêt de sauvegarder des choses qui ont disparu ou qui sont en voie de disparition en vue des, au vu des transformations de la société, d'une part. Mais d'autre part, ce sont des gens qui sont arrivés et qui ont été invités et incités à écrire dans l'idée de soutenir un projet colonial. Et donc, ces analyses sont complètement truffées de lectures qui n'ont plus rien à voir, que disons, aucun Marocain ne peut reprendre à son compte. Parce que ces travaux avaient pour but de préparer, sinon de justifier l'entreprise coloniale française au Maroc. Et que dans un pays indépendant, c'est tout à fait inacceptable. Donc, on ne peut pas revendiquer ces travaux. Il faut reprendre, les débarrasser de toutes ces lectures critiques totalement dépassées pour produire de nouvelles analyses. Et du coup, en gros, c'est se réapproprier la culture. Alors, ce que je trouve très touchant, c'est que dès le premier numéro, Labi explique que que le groupe de Souffle ne se positionne pas comme des héritiers. Il dit nous sommes des commenceurs. Donc, ils assument complètement d'être dans une avant-garde en termes de création, mais leur avant-garde, ils entendent l'ancrer dans un patrimoine et donc reprendre en main cet héritage de culture traditionnelle, que ce soit au niveau de la littérature, au niveau des arts visuels, au niveau de l'architecture, bref, au niveau, disons, de toutes les disciplines qui intéressent l'équipe de Souffle, et de se livrer à ce travail de déblayage à l'intérieur de ce corpus. Donc, par exemple, à l'École des Beaux-Arts, il y a Tony Maraini, il y a Bert Flint, il y a Belkahia, il y a Sheba, qui disent « Notre tradition est révolutionnaire, elle est futuriste », c'est-à-dire que on reprend en main ce corpus et on va voir qu'est-ce qui dedans nous permet de nourrir notre création contemporaine, d'une part. Les écrivains sont allés peut-être plus loin, puisque de toute façon Souffle est d'abord une revue d'écrivains et de poètes, donc ils ont peut-être plus affiné leur réflexion sur ce domaine-là. Ils ont par exemple dit la tradition. Ça n'est pas un bloc immuable. Une tradition, par définition, c'est ce qui se transmet. Et dans ce qui se transmet, eh ben, on fait des choix. Et il y a des choses dans notre tradition qu'on va tout à fait revendiquer, qu'on a envie de perpétuer, de renouveler, parce que, et là, je pense qu'ils rejoignent les artistes plasticiens en disant, notre tradition est futuriste, elle est révolutionnaire, elle est porteuse de facteurs de modernité, d'ouverture sur l'universel, etc. Mais il y a aussi des aspects de notre tradition qui sont tout à fait archaïque et qui nous tire vers le Moyen-Âge, même si c'est pas dit, enfin je m'excuse pour la grossièreté de la formulation, mais qui sont à passer aux oubliettes. Et par exemple, un des faits d'armes de Souffle, c'est que en 67, ils font un dossier pour réhabiliter Drish Raibi. Drish Raibi avait publié en 1954 Le Passé Simple, et ça avait fait un scandale, parce que c'était l'époque où le Maroc était en pleine lutte pour son indépendance. Et Le Passé Simple raconte la révolte d'un fils contre son père et toutes les valeurs archaïques véhiculées par ce père qui est appelé le Seigneur. Donc, ce livre avait été extrêmement mal reçu. Drish Raibi avait été absolument assassiné par la critique au Maroc. Il avait été traité de traître. Et là, en 1967, donc près de 13-14 ans après la parution de ce livre, Souffle dit que vous le vouliez ou non, Drish Raibi est notre meilleur écrivain et il a eu raison d'écrire Le Passé Simple parce que il a eu raison de critiquer les archaïsmes de la société traditionnelle. Et donc voilà, c'est un positionnement tout à fait lucide et très fort que la revue arrive à adopter.
Et ce sont des lecteurs, entre autres, de France Fanon, Aimé Césaire.
Oui.
Pour porter justement ce projet de décolonisation. France Fanon sur la volonté d'une rupture, et Aimé Césaire sans doute sur cette question de l'héritage.
Sur la rupture aussi poétique que représente Césaire. Il y a un thème par exemple qui est très abordé dans Souffle, c'est le thème de la négritude. Alors ça commence par un article incendiaire, un reportage qu'a fait Abdallah Stouki à Dakar en 1966 pour couvrir le Festival des Arts Nègres. Et c'est un article au vitriol en disant mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce courant de la négritude, c'est complètement dépassé. Qu'est-ce que c'est que cette racialisation de la pensée? On ne veut pas ça. Et par contre, ils encensent dans la revue l'œuvre de Césaire parce qu'ils la considèrent comme une œuvre vraiment en rupture au niveau esthétique.
1969, il me semble, non, 1967, pardon, c'est la défaite des Palestiniens et souffle, prend une tournure nouvelle, une tournure beaucoup plus révolutionnaire, en tout cas plus affirmée, et cela ne va pas sans débat et rupture à l'intérieur des animateurs de la revue Souffle.
Bah, c'est une transition effectivement qui a été amenée depuis le début, c'est-à-dire, alors pour vous résumer grossièrement un peu les échos que j'ai eus de cette revue en menant mes entretiens, c'est, certains m'ont dit il y a eu deux revues, il y a eu la revue 1966-1969 et 69 et après. En fait, bon, la guerre des six jours, c'est juin 1967, et ça maturait parce que ça faisait partie d'un paysage global où on discutait du Vietnam, on discutait de la Palestine. Il était question même d'ailleurs au sein du Parti communiste de l'époque, le PLS, Parti de la Libération et du Socialisme, de créer un groupe pour défendre de façon conjointe la cause du Vietnam et celle de la Palestine. Maintenant, le temps que ça mûrisse, disons que... les gens de Souffle étaient d'abord tous politisés et tous à gauche.
Ils étaient engagés
ils avaient des convictions et certains ont franchi le pas de s'engager dans des associations, de s'engager dans des partis politiques, donc dans le PLS que j'ai cité, qui était l'avatar toléré du Parti communiste marocain, lequel avait d'ailleurs été interdit en 1960. Il y avait aussi des gens qui étaient à l'UNFP, il y avait des gens qui étaient dans des associations culturelles, bon, des gens très actifs sur le plan public. Et pour certains, de fil en aiguille, et ça a été le cheminement notamment de Labi et notamment de Abraham Serfati, grand militant pour l'indépendance du Maroc, grand militant communiste, qui a rejoint en 1968 la revue Souffle et qui a impulsé une dynamique de dire mais finalement on parle de culture, mais tout ça c'est très politique. Et certains se sont dit à un moment l'urgence c'est la lutte politique plus que la lutte culturelle, et ça n'a pas été du tout la vie de tout le monde. Donc, il y a eu des tensions au sein du groupe. Alors, il n'y a pas eu une rupture radicale, mais disons qu'il y a eu un tournant. Donc, le numéro dont vous parlez en 1969, un numéro spécial Palestine, dédié à la révolution palestinienne, donc un hommage avec énormément d'articles de création, d'articles de réflexion sur, par exemple, je pense à un très bel article de Serfati sur qui distingue le judaïsme marocain et le sionisme. Il y a eu des articles sur la nation arabe, sur les perspectives de révolution à l'échelle de la nation arabe. Et ce dossier, ce numéro, a été le dernier de Souffle dans son format initial. Ce qui veut dire que le tournant s'était déjà amorcé avant, mais qu'ensuite, à partir de ce numéro, il y a eu des gens qui ont décidé que la lutte politique était plus importante. Et ça a coïncidé avec les scissions progressives qui se faisaient à la fois au sein du Parti communiste et de l'UNFP, de jeunes militants qui estimaient que les directions de ces partis ne répondaient pas à leurs questions, ne portaient pas suffisamment leurs revendications, notamment sur la question de l'enseignement, mais sur d'autres points. Et ils ont fait scission pour créer les organisations qui allaient constituer le mouvement marxiste-léniniste marocain. Donc du PLS est sorti un groupe qui s'est appelé Organisation A. Et de l'UNFP est sorti un groupe qui s'est appelé Organisation B. Et dans un premier temps, ils ont gardé les lettres parce qu'ils avaient le sentiment qu'ils avaient des choses en commun et qu'ils avaient envie de s'unifier pour faire un mouvement commun. Donc le temps de trouver un nom, ils ont gardé A et B. Et Souffle, à ce moment-là, a lancé son doublé en arabe, qui s'est appelé Anfas. Et cette revue, qui était mensuelle, alors que Souffle était trimestriel, a été vraiment... La matrice, disons, d'une réflexion entre les gens de l'organisation A et ceux de l'organisation B, où ils ont eu une réflexion commune sur les possibilités d'une action commune et tout. Donc ils se sont rapprochés sur certains points, mais ils n'ont pas pu aboutir à une unification du mouvement, ce qui fait qu'ensuite il y a eu A qui est devenu Hilal MM en avant, et B qui est devenu le mouvement du 23 mars. Et de toute façon, ils n'ont pas eu le temps non plus de s'unifier parce que comme leur discours se radicalisait et qu'à cette époque-là, de toute façon, les lieux de discussion libre étaient assez réduits et assez surveillés, les arrestations se sont produites de façon extrêmement rapide en juin 72. Donc, il n'y a pas eu un temps de maturation comme a pu l'avoir la phase culturelle de Souffle. Mais Quand j'ai fait mes entretiens avec les différents auteurs, je suis allée voir autant les artistes et les intellectuels et les écrivains que les militants. Il y a vraiment deux points de vue. C'est-à-dire qu'il y avait ceux qui sont les militants qui estimaient que, ben, quelque part, la politisation de Souffle venait dans la continuité parce que c'était une revue engagée, donc c'était normal de prendre Souffle pour porte-parole. Et puis, il y avait ceux qui étaient là dès le début et qui ont vu d'un très mauvais œil arriver des gens qui s'étaient quasiment pas intéressés à la vie culturelle de Souffle avant, en fait, et qui arrivaient en disant ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait écrire et en reléguant au deuxième plan les préoccupations purement culturelles.
Je crois que certains ont quitté Souffle et ont fondé Intégrale.
Alors oui, effectivement, Mohamed Melihi, Mostafa Nissabouri et plusieurs autres dont les noms ne me reviennent pas dans l'immédiat ont souhaité poursuivre le projet initial de Souffle en créant une revue dédiée à la littérature et aux arts, donc qui s'est appelée Intégrale, qui a eu moins d'impact que Souffle, mais qui était une très jolie revue aussi. Voilà.
Parlons un instant de En Face, parce qu'En Face, Souffle est une revue française, de langue française. En Face est une revue de langue arabe.
Oui, mais c'est pas la première fois qu'il y a de l'arabe dans Souffle, hein, parce que justement, dès le début, évidemment, ça c'est la grande question, dans quelle langue on écrit, qui était une question très, très brûlante à l'époque, il est un petit peu moins aujourd'hui, mais qu'on entend quand même ressurgir dans le débat public. L'idée était que on est le produit d'une situation historique, on écrit plus spontanément en français, mais on n'en est pas moins les témoins de notre époque et on porte des préoccupations pour le Maroc. Donc si les Marocains estiment que quelque chose mérite d'être tenu de ce travail, il y a la possibilité de la traduction. Ça, c'est le prologue de Labi dès le début. Mais il y a eu tout de suite l'idée d'établir une passerelle entre les auteurs de langue arabe et les auteurs de langue française, et il y a eu 3 numéros bilingues qui ont permis de faire connaître l'avant-garde de création littéraire pas seulement du Maroc mais également du Maghreb à l'intérieur de Souffle en arabe. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que ça n'était pas des numéros où vous avez le même texte, une page en français, une page en arabe. Non, c'était des sommaires différents. Parfois le prologue était traduit, existait dans les deux versions arabe et française, mais l'essentiel était de comprendre que à cette époque-là, les gens qui lisaient ce type de revue, c'était des gens qui étaient autant capables de lire en français qu'en arabe.
Kenza Sefrioui, dites-moi tout. En fait, c'est la liberté de ton aussi qui vous a sans doute intéressé dans cette revue.
Mais c'est pour ça que je suis tombée dans cette revue et j'ai consacré 10 ans de ma vie à l'étude de cette revue, justement parce que j'ai eu un coup de cœur pour cette liberté de ton. Enfin, c'est des textes absolument d'une grande profondeur et d'une grande intelligence et puis d'une grande liberté, effectivement, intellectuelle. C'est un bonheur de les relire. D'ailleurs, je signale qu'ils ont été numérisés et qu'ils sont en accès libre sur le site de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc, bnrm.ma. Donc, retournez à vos classiques, c'est gratuit.
Justement, sur les conditions d'archivage, les conditions de conservation de cette revue Souffle, il me semble que vous avez eu du mal à trouver tous les numéros.
Oui, j'ai commencé en 2002, et en 2002, la Bibliothèque Nationale n'existait pas encore, il y avait la Bibliothèque Générale. Et quand je me suis rendue à la Bibliothèque Générale, donc j'ai trouvé des traces dans le catalogue, les fiches papier à l'époque, et par contre, ça ne correspondait à rien, parce que quand j'ai demandé le jeu complet de la revue, on m'a ramené des exemplaires en vrac, paroliers, couverts de chure de pigeons. Et évidemment, de toute évidence, la collection avait été pillée. L'Abi m'avait dit qu'il avait remis 4 jeux entiers de la revue à cette bibliothèque, mais que visiblement les gens s'étaient servis. Et c'est grâce à une équipe américaine du CUNY, en fait, de CUNY, Université de New York, qui a numérisé l'intégralité des numéros en français et des numéros bilingues. Il n'y a pas Anne Fass, que j'ai pu télécharger tous ces numéros et commencer mes recherches. Et puis pour le reste, c'est-à-dire pour la revue publiée par les militants en exil après l'arrestation des animateurs de Souffle au Maroc, eh bien, j'ai eu recours à la Bibliothèque nationale de France où les numéros sont conservés.
Justement sur cette arrestation, en tout cas, nous avons trouvé une archive qui date du 13 juillet 1971. Qui nous parle d'une tentative d'un coup d'État au Maroc. C'est Intersoir, journal de France Inter.
« Interactualité présentée par Yves Mourouzi.
Bonsoir. 11h15 ce matin dans un camp militaire proche de Rabat. 10 chefs du complot, attachés les uns à côté des autres, à 10 mètres l'un de l'autre, dégradés, font face au peloton d'exécution. Ils crient « Vive le roi !» Dix fois, ils ont répété ce cri « Vive le roi !» avant de tomber sous les balles du peloton d'exécution. Cette exécution a été retransmise cet après-midi sur les ondes de la radio marocaine et sur les ondes de France Inter grâce à Ralph Pinto qui avait recueilli pour nous ce document. Les Marocains pourront voir ce soir à la télévision ce même document, images à l'appui. Le roi Hassan II a donc tenu sa promesse et on peut dire, Ralph Pinto, que les choses sont allées très vite au Maroc.
Cette publicité relative montre bien que le roi veut lui aussi faire sentir à côté de quel drame le Maroc a pu passer. Il l'a déjà dit d'ailleurs dans sa conférence de presse de dimanche soir.
Nous sommes le 13 juillet 1971, janvier 1972. Abdelatif Lahabi, un des fondateurs de cette revue Souffle, le poète, est arrêté.
Alors ça, c'est sans lien. Hein. Votre archive, je la trouve très forte parce que je n'en avais pas eu connaissance et je trouve ça absolument terrible d'entendre sonorement l'exécution de gens. Quel que soit leur chef d'accusation, mais je pense surtout aux autres qui ont payé le prix fort de ce putsch raté de Srirat et qui sont les militaires qui ont été enlevés alors qu'ils avaient été jugés et condamnés à des peines de prison, qui ont été enlevés à la prison de Kenitra pour être transportés au bagne de Tazmamart avec le projet que certainement Hassan II formulait pour eux de les laisser mourir à petit feu. 18 d'entre eux ont survécu et notamment Ahmed Marzouki qui a témoigné de ces années d'horreur dans Tazmamart cellule 10 et qui est, je crois, le plus grand best-seller au Maroc, je crois, avec près de 100 000 exemplaires vendus, où il témoigne de la barbarie de ce régime.
Alors, c'est sans lien direct, mais en même temps, ça témoigne d'une situation au Maroc.
Ça vous donne une idée sur l'ambiance, voilà. Voilà, ça, et sur l'ambiance d'arbitraire également, dont aussi une partie des animateurs de Souffle, si j'ose dire, bénéficiaient, puisque Souffle n'a pas fait l'objet d'une interdiction. Il y avait un code de la presse qui prévoyait certaines procédures pour interdire éventuellement une publication. Ça n'a pas été le cas, ça a été beaucoup plus brutal que ça, c'est-à-dire la police arrive, arrête les gens à leur domicile et les jette dans des prisons secrètes, on a su ensuite lesquelles, pendant de longs mois où ils ont été torturés sans relâche, en attendant un procès ces procès de 1973 et de 1977 à Casablanca restent encore des pages noires dans l'histoire de la justice au Maroc. Voilà.
Parce que cette mise au silence de Souffle, cette mise au silence de ceux qui ont fait cette revue explique aussi sans doute finalement la question aujourd'hui et celle que vous relevez dans cet exercice de publier cet ouvrage autour de la revue Souffle qui explique que une partie de l'histoire contemporaine du Maroc a sans doute aussi été oubliée par les Marocains eux-mêmes.
Pas tant que ça. Occultée au grand public indéniablement. Mais de toute façon, pas seulement cette histoire, mais tout l'accès au savoir, vu le massacre délibéré de l'enseignement public. Donc la question est plus large que ça. En ce qui concerne cette histoire précisément, non, parce que quand j'ai commencé mes recherches, je me suis rendu compte que Souffle avait eu vraiment deux vies, c'est-à-dire une vie dans les milieux universitaires, qui avait beaucoup travaillé sur la partie essentiellement francophone et étudié l'avant-garde artistique qu'avait représenté Souffle et salué la modernité littéraire, même s'il y avait une dimension militante de produire des études alors que certains des auteurs comme Lahabi par exemple étaient en prison à cette époque-là. Il y avait certainement une dimension de solidarité de la part des chercheurs de continuer à documenter, à ne pas laisser retomber le silence sur cette histoire-là. Mais la vraie mémoire, parce que là on parle de connaissance des textes et éventuellement de connaissance des gens, mais la vraie mémoire, c'est la mémoire des militants. Et là, elle concerne beaucoup plus à la fois la deuxième vie de souffle et puis la troisième vie en exil. Et là, on est vraiment dans le politique et des militants de l'ILMM 23 mars qui sont devenus ensuite l'architecture de la société civile au Maroc et notamment des organisations des droits humains. Voilà. Donc là, on connaît les gens, on connaît leur histoire, il y a une épopée qui s'est forgée à partir de ça. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que le mouvement du 20 février a permis une deuxième transmission de mémoire. Parce
alors,
que là,
le mouvement du 20 février, il faut le préciser, c'est un mouvement qui date
de il n'y a pas très longtemps. Qui date de février 2011, voilà. En fait, dans le sillage des printemps arabes. Ce sont des jeunes, la politique, qui ont lancé un appel pour demander plus de justice sociale, lutter contre la corruption, réclamer une école publique, un hôpital public, des services publics de qualité, la fin du népotisme, etc. Et du coup, c'était au départ parti de jeunes apolitiques, mais ils ont été très vite rejoints par les partis d'extrême gauche et la société civile, donc quelque part, ceux qui étaient à souffle quand ils avaient leur âge. Et il y a eu une transmission de mémoire qui s'est faite. Alors je précise également, pour être exhaustive, que le mouvement du 20 février a attiré aussi pendant un temps le mouvement Al-Adl wal-Ihsan, qui sont des islamistes et qui plaidaient pour un tout autre projet de société, ce qui a créé pas mal de tensions à l'intérieur du mouvement. Mais je tiens à parler vraiment de ce mouvement où je vous ai dit je vous ai parlé des procès de 73 et de 77. Hier, il y a eu le verdict dans le procès de six militants du mouvement du 20 février qui ont un procès bâclé et des causes peu élucidées avec violation des droits de la défense. Et nous ne sommes toujours pas sortis de cette ère en fait, d'arbitraire. Malheureusement.
Je parlais de ce travail de mémoire et que la possibilité que cette revue soit passée dans l'oubli aussi parce que je sais que Abdelatif Lahabi justement se plaignait d'un travail de mémoire mal fait d'une certaine au Maroc, lui-même ayant plaidé il me semble un temps pour un institut de la mémoire culturelle contemporaine disant mais voilà que sont devenus les archives ou tous les archives de Mohamed Kassimi, un peintre
absolument.
Que sont devenues les archives de Mohamed Choukri. Je sais qu'il y a des films de cinéastes qui ont disparu. Et lui-même, Abdelatif Lahabi, a déposé ses archives à l'IMEC, à Caen.
À l'Institut de la mémoire de l'édition contemporaine, oui.
Et qu'il y a cette question de la conservation des archives, et qui témoigne aussi de la manière dont vous avez, trouvé ces archives. Comme vous le disiez tout à l'heure, les archives de souffle, vous les avez trouvées dans un état déplorable.
Oui, c'est un vrai enjeu. Je pense que la Bibliothèque nationale est sensibilisée à ces questions maintenant. Quand on a un retard, c'est sûr que ça prend du temps à le rattraper. Mais l'ABI a beaucoup écrit dans la presse des tribunes justement pour évoquer cette question. Le sort des archives de Feu Kassimi, le sort des œuvres de Mohamed Choukri, etc. Elles sont également régulièrement soulevées et c'est effectivement une question légitime, mais c'est aussi une question qui me semble peut-être importante pour les spécialistes. Moi, j'ai eu tendance à la fois à me préoccuper de la transmission de ces archives. C'est ça peut-être qui me semble plus important. Mais les deux combats sont tout aussi légitimes et doivent être menés de front. Moi, je suis peut-être plus sensible, moins à la conservation des archives en elles-mêmes qu'à la transmission d'une mémoire et à la réhabilitation d'une mémoire. Il faut vaincre le silence. J'ai le souvenir qu'enfant, quand on allait au Maroc, il y avait une réelle peur par rapport au discours politique où les gens baissaient la voix. Quand vous vivez dans une dictature, c'est ça en fait. C'est maintenant, il me semble que l'urgence c'est de vaincre la peur et c'est de ce que le mouvement du 20 février a considérablement contribué à faire, ainsi que l'essor à un moment d'une presse indépendante qui d'ailleurs est très mal en point en ce moment. Mais moi, l'enjeu pour moi, c'est qu'il y ait une transmission, c'est que le message passe, c'est que les gens puissent être au courant qu'il y a des choses qui ont existé et qui existe et qui se passe et qu'ils puissent avoir les outils de se faire une opinion.
Je vous propose d'écouter une musique sélectionnée par Claire Rivière. Elle s'intitule Oba Oba Spirit, extrait de l'album Oba Oba Spirit sorti en 2003 dont la musique s'intitule Fine Gadi Biakoya.
Fine Gadi Biakoya. Où est-ce que tu m'emmènes, mon frère?
Merci Kenza, on l'écoute.
plus rien, on sait plus d'où on vient. On est perdu en chemin et on n'en voit pas la fin. Un petit peu tradition, un petit peu science-fiction. Résultat confusion, c'est la fusion qui rend con. Complètement paumé. On perd tous nos repères et plus rien n'est très clair. On est des cyber-berbères perdus sur la terre. Faut peut-être ralentir pour rectifier le tir. Ralentir pour arrêter ce délire. Goulali enta ila kouti arfa. Fin radi biya khoya. قاتل فين عايشين بين وبين ما عارفينش فين غادي نشكون تابعين غير تابعين 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 كل بهاي جابونا الانترنت حنا فهمنا انتربنت اجي تشاطي معايا ومبعد لقاو في القهوة ولكن مع السبعة خاصة تكون جالسة مع الوالد والوالدة كتفرجوا في التلفزة صرية مصرية عندكم ما يقلبوها ويطيحوا في شي فضيحة. Mais tout le monde ici sait que ce que tu fais après 7 heures, tu peux le faire à toute heure. Mais ça c'est pas important, ce qui compte c'est ce que disent les gens. C'est le Hajra Dianès à l'heure du e-business. Tu fais tout ce que tu veux tant qu'on y voit que du feu.
Cette liberté de ton, de souffle, Kenza, on le retrouve, cette liberté de ton, on la retrouve dans cette musique-là et les paroles.
Ah, Huba Huba Spirit, c'est un des groupes qui a été le plus marquant dans l'émergence des musiques urbaines. Et il y a eu ce mouvement du boulevard des jeunes musiciens à Casa qui a permis de faire sortir les jeunes, de les inciter à faire de la musique, de se regrouper autour de la musique. Et ça a été un espoir énorme. Et alors, je pense que c'est un des rares mouvements transdisciplinaires qu'a eu l'ampleur de Souffle beaucoup plus, parce que Souffle ça a touché surtout des intellectuels, tandis que là il y avait des stades entiers qui étaient remplis de jeunes, donc c'était pas du tout en chiffres la même proportion, mais ça a été quand même la même rencontre, parce que le boulevard des jeunes musiciens, c'était la musique, mais aussi les arts graphiques, la photo, la vidéo, les arts des rues et tout. Très peu l'écriture, curieusement. C'est peut-être la seule limite du mouvement, mais il y a eu quand même de belles passerelles qui ont été établies entre les artistes, et c'est ce que Souffle avait réussi à faire aussi à l'époque différemment.
Justement, aussi sur le renouveau, ou en tout cas ce qui se passe aujourd'hui au Maroc, le mouvement du 20 février, ce groupe dont vous parlez, il y a aussi le réseau Racine. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur ce réseau.
Alors Racine, c'est une association dont je suis membre fondatrice avec un certain nombre d'amis qui viennent de différents horizons professionnels. Et on représente au Maroc le réseau Arterial Network, qui est un réseau panafricain qui fait du plaidoyer pour des politiques culturelles. Donc on est des journalistes culturels, des artistes, des activistes, des militants de la culture, et on s'arrange pour essayer de faire comprendre à nos gouvernants que la culture est un moteur de développement humain, social et économique. Donc c'est le principal message qu'on a à faire passer. On a du mal à se faire entendre, évidemment, mais on ne désespère pas. Et on organise une fois par mois des rencontres sur des questions structurelles liées à la culture. Alors l'an dernier, on était censé avoir des élections communales qui ont été reportées et qui auront probablement lieu, la date n'est pas confirmée, mais pas cette année, mais l'année prochaine. Et nous avons invité les principaux partis politiques à nous répondre sur le programme qu'ils auraient pour la culture à l'échelle de la ville. Et ben, je pense qu'avec ce que nous avons pu filmer, nous aurons largement de quoi faire un film comique, ou du moins un bêtisier assez spectaculaire, parce que, hélas, malgré le questionnaire que nous avons fourni à nos interlocuteurs pour qu'ils puissent préparer ces rencontres, même si ce questionnaire ne contenait que 3 questions, ils n'ont pas pris la peine de le lire, et nous avons eu droit à des heures et des heures de généralités, de contre-vérités, de chiffres aberrants et autres délires. Et c'est assez saisissant sur la façon dont la culture inspire nos dirigeants. Nous ne désespérons pas que le sentiment de gêne qu'ils ont ressenti vis-à-vis de nos questions ne les ait amenés à poursuivre la réflexion un peu plus loin. Restons optimistes.
Il y a un site internet pour Racine.
Racine.ma, www.racine.ma, Racine au pluriel.
Kenza Sefroui, vous êtes venue nous parler de la revue Souffle 1966-1973. On peut trouver hein, donc cette revue de manière numérique sur le site de cette université à New York.
Oui, voilà. Et sur le site de la Bibliothèque nationale bnrm.ma.
Parfait, on peut trouver aussi ce livre que vous avez rédigé à la librairie Transit à Marseille.
Transit.
On peut le trouver aussi au Mucem dans le cadre de ce temps fort Mucem Maroc. Cette revue donc qui est, il faut le dire, la première étude sur l'histoire des idées de l'ère post-indépendance. Ce livre-là, voilà le premier livre d'études sur cette ère post-indépendance et sur l'histoire des idées. Merci beaucoup,
merci
Kenza,
Emmanuel.
D'être venu. On se quitte avec un texte de la revue Souffle, un texte de Ahmed Bouanani qui s'intitule « Mon pays » et qui, je crois, est lu par Claire Rivière.
Vois-tu, nous avons d'abord bâti dans du sable. Le vent a emporté le sable. Puis nous avons bâti dans du roc. La foudre a brisé le roc. Il faut qu'on pense sérieusement à bâtir dans l'homme.
Imik, simik, afous, hufous, wing dwinu, iranftu. Imik, simik, afous, hufous, wing dwinu. Iran, if to I will take the train, leave the sun for the rain and come downtown, town, town and come downtown, town, town. I'll spend money and time, lose friends and cry. More than a motherless child, I will come downtown to you now. Simik, afous, hufous, wing dwinu, iranftu. Imik, simik, afous, hufous, lihsfar tasainu, lihsfani walilu, lihtoms tafousinu, agara. Sun for the rain and come downtown, town, town and come downtown, town, town. I'll spend money and time, lose friends and cry. More than a motherless child, I will come downtown to you now, 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 downtown to you now, now, now. So baby, to please open the door and let me in till we can forget all, just you and me forever downtown in the city, my love, my dear, my sweet baby. I need to see, to feel, to breathe your touch, your kiss, your smile, your lips. I need to see, I need to see you now.
I'll leave the sun for the rain, baby. I'll leave the sun for the rain. I'll leave the sun for the rain and come downtown, down, down to you now. Downtown, down, down to you now.
Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.